Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Primo Levi aurait eu 100 ans en 2019. Son livre, Si c'est un homme, est l'un des premiers témoignages jamais écrits sur Auschwitz. Il a marqué les esprits et reste aujourd'hui une référence. En hommage à la force de son témoignage, le centre Primo Levi, qui soigne les personnes victimes de la torture et de la violence politique, porte son nom depuis près de 25 ans. Aujourd'hui, 16 novembre, à la mairie du 3e arrondissement à Paris, sont organisés des débats et des ateliers autour d'expositions. Le centre Primo Levi est un arbre auprès duquel il fait bon se reposer, se battre contre la violence avec le soin pour seule arme, une armée des ombres contre l'obscurité. En partenariat avec le centre Primo Levi, Lenora Krief et Julie Béressi vous proposent aujourd'hui une vie, une œuvre consacrée à Primo Levi.
Primo Levi, l'homme en soi. Par Lenora Krief et Julie Béressi.
Il se sentait très proche du vieux marin de Coleridge. Coleridge est un poète anglais de la fin du XVIIIe siècle. Le vieux marin de Coleridge, c'est ce vieux marin qui est le seul survivant de tout un navire. Ce navire allait vers les mers du Sud. Il se sent d'ailleurs coupable parce qu'un albatros les suivait comme un oiseau de bon augure. Et à un certain moment, sans aucune raison, le vieux marin prend une arbalète et le tue. Et quand l'oiseau tombe sur le navire, le drame commence, il n'y a plus de vent, les marins meurent les uns après les autres et lui, il reste seul. Et quand il élève vers le ciel une espèce de prière, admirant les êtres marins, les petits poissons, les petites, cette vie si belle dans les profondeurs de la mer, de l'océan, c'est là que le navire continue sa course et il rentre dans le port, mais c'est le dernier.
En fait, il évoque cette figure du survivant, et c'est-à-dire de l'homme non désiré par la société, qui impose ses cauchemars à une société qui ne veut plus en entendre parler. Du coup, on a cette invasion d'un personnage qui trouble la conscience collective. Évidemment, c'est une allégorie de la société après la guerre, qui essaie de revivre, et c'est bien compréhensible, en plus on peut tout à fait le comprendre, qui essaie de renaître, de regarder vers l'avenir. Lui, il arrive et il raconte les horreurs qu'il a vécues, et du coup il brise un peu ce besoin d'optimisme de l'après-guerre et nécessaire pour une reconstruction de la société.
Proprio il ritrovare la libertà per me ha coinciso con tante altre cose.
Précisément, le fait de retrouver la liberté a coïncidé pour moi avec bien d'autres choses. Avec la liberté elle-même, avec la découverte de l'écriture, paradoxalement, avec la découverte de posséder une expérience extrêmement douloureuse, mais précieuse, qui pouvait durer comme un capital qui donne ses fruits, et qui en effet continue de fructifier d'une certaine façon. Elle m'a fourni une certaine compréhension du monde et la faculté d'y réfléchir. Et je considère cela comme positif. De sorte que cela peut sembler, comment dirais-je, impie même, mais la somme algébrique du mal d'Auschwitz additionnée à ce qui a suivi, pour moi, est positive et non négative. Il est difficile de faire des hypothèses. Si je n'avais pas été à Auschwitz, qui sait ce qui serait advenu, je ne le sais pas. Mais j'ai l'impression que j'aurais maintenant une vie plus pauvre.
Primo Levi consacre tout un chapitre de Si c'est un homme au chant d'Ulysse de la Divine Comédie. Il établit un parallèle entre son expérience du déporté qui tente de résister pour rester humain et l'aventure de l'Ulysse dantesque qui dépasse les colonnes d'Hercule en bravant la mort au risque de faire naufrage. Comment rester un homme dans un système de déshumanisation? Le retour de Auschwitz est extrêmement douloureux pour Primo Levi. Il compte les morts, ceux qui ne sont pas revenus, les amis abattus par les fascistes. C'est un retour en noir et blanc, comme il disait. Et pourtant, il sent en lui un sentiment d'urgence, un besoin irrépressible de faire entendre. la tragédie juive contient en elle une portée universelle évidente. Et Primo Levi va œuvrer toute sa vie à transmettre son expérience. Qui était l'homme derrière le chimiste, le témoin, puis l'écrivain? C'est en hommage à ses aïeux que Primo Levi a donné pour titre « Argon » au chapitre d'ouverture du système périodique. Argon, ce gaz rare qui reste à l'écart d'autres éléments et ne se rencontre dans aucune réaction chimique.
La famille de Levi, c'était donc déjà des gens qui avaient profité de l'émancipation des Juifs que Napoléon avait apporté, même brièvement.
Myriam Anisimov, écrivaine et autrice de l'ouvrage « La tragédie d'un optimiste ».
Puisque quand il est arrivé en Italie, qu'il a conquis l'Italie, il a ouvert les portes des ghettos, il a libéré les Juifs. Et finalement, les Juifs d'Italie, ils sont un modèle encore plus parfait d'intégration. Si bien qu'en, disons qu'en deux générations, ils avaient quasiment perdu toutes leurs coutumes juives, mais c'était pour eux une sorte de petites choses particulières. C'était des Juifs de Kippour. Ils allaient à la synagogue une fois par an. Quand ils y allaient, ils faisaient les fêtes, quelques fêtes, surtout le Seder de Pessah et peut-être un peu Soukhot, et c'est tout. Mais surtout, ce qui est particulier, c'est que ils étaient passés du ghetto à l'élite. C'est-à-dire qu'ils étaient, en deux générations, ils étaient devenus l'élite de l'Italie. Et donc le père de Levi et les frères de son père étaient ingénieurs. C'était des gens très curieux. Donc le père de Levi, Cesare, il a acheté tout de suite à son petit garçon, à Primo, des livres de vulgarisation scientifique, mais déjà assez difficiles. Tout ce qui avait trait à l'astronomie, à la chimie, à la physique. Levi, pour un enfant de son âge, était parfaitement au courant de choses qu'on apprend généralement en terminale ou je sais pas. Il était un enfant savant.
Oui, c'est un milieu bourgeois, de moyenne classe. C'est effectivement son père qui lui transmet le goût des sciences.
Philippe Ménard, professeur en littérature générale et auteur de l'ouvrage « Le passage d'un témoin ».
Il est très très proche de sa mère. Il fait partie en Italie de cette communauté juive qui s'est intégrée au pays, qui s'est intégrée à la culture, et même au pays, on peut dire au Piémont, presque plus qu'à l'Italie, parce qu'il est extrêmement attaché au Piémont. Donc c'est un juif très intégré, de même que l'ont été aussi Jean Améry en Autriche, ou Imre Kertész en Hongrie, qui ne parle pas yiddish, qui évidemment connaît la tradition et la religion, mais qui reste voilà, extrêmement, extrêmement intégré, comme nombreux aussi en France.
Ils habitaient le quartier de la Crocetta, qui est un quartier élégant, mais d'apparence austère. C'est très intéressant, ça, le Piémont. C'est-à-dire que vous avez des façades d'immeubles parfaitement grises, austères, et vous entrez, vous avez à l'intérieur des palais. Et ils habitaient 75 Corso Re Umberto dans un immeuble comme ça. Il a grandi dans le climat du fascisme. Il portait la chemise noire, c'était obligatoire. Et les professeurs portaient la chemise noire, son père portait la chemise noire. De toute façon, on ne pouvait pas aller à l'école sans porter la chemise noire. Alors, d'abord, on dit timide, introverti. Bon, on n'élevait pas les enfants comme aujourd'hui. Il y avait une sorte de respect, de distance. Les gens n'étaient pas aussi ouverts. Et les Juifs italiens, enfin, cette classe d'intellectuels de moyenne et grande bourgeoisie, ils étaient très puritains. Et donc, on ne parlait pas, bien sûr, de la sensualité, des sexes encore moins. Il y avait une espèce d'écran comme ça de... sur tout ce qui était physique et tout ce qui était sensuel, tout ce qui était les rapports entre les parents et les enfants, on ne se touchait pas, toutes ces choses qui isolent un enfant. Et en même temps, d'abord, il n'a pas toujours été scolarisé dans une école, et il a aussi, comme il était un peu malade, il a reçu aussi des cours particuliers à la maison. Mais quand il est rentré au lycée, on lui faisait des plaisanteries antisémites. Ça allait de soi. Je veux dire, ça faisait partie de la norme de faire remarquer à un condisciple qu'il était juif. Et puis surtout, alors dès qu'il était adolescent, c'est des trucs d'adolescent, on lui disait « tu seras impuissant puisque tu es circoncis ». Donc il a vécu le fait d'être circoncis comme quelque chose, une tare physique. Enfin, il pensait peut-être qu'il avait un sentiment d'infériorité physique, d'autant plus qu'il était assez menu, petit, frêle.
Primo Levi, il faut l'imaginer, un peu fermer les yeux pour l'imaginer. C'est un petit gabarit, c'est quelqu'un qui a été malade plusieurs fois pendant son enfance, donc qui d'une certaine manière n'est pas, on peut dire, prédisposé, et encore moins parce qu'il est près de sa mère, à faire partie des groupes sportifs de l'éducation fasciste. Indépendamment de quoi, quand il va grandir, il va faire de la montagne, il va faire de l'alpinisme, et ce sera comme une autre formation d'endurance extrêmement importante dans son destin, parce que ça lui, la montagne, c'est aussi, ça demande une endurance physique très importante, ça demande une patience vis-à-vis des éléments, et évidemment, ce seront autant d'atouts pour pouvoir survivre dans un milieu aussi précaire et aussi difficile qu'à Auschwitz. Donc c'est tout un moment où progressivement, effectivement, l'antisémitisme du côté du fascisme mussolinien s'affirme, avec les lois évidemment qui sont votées en 38. Il échappe de justesse à ces lois pour pouvoir entrer à l'institut chimique, hein, mais de justesse, hein, sa sœur ne peut pas entrer à l'université.
Pochissimi oggi riescono a ricostruire, a ricollegare.
Aujourd'hui, très peu de personnes sont capables de comprendre le fil conducteur qui relie l'action des fascistes de l'Italie des années 20, les massacres à Turin, les camps en Allemagne et en Italie aussi, parce que nous avions aussi des camps en Italie, même si peu de gens en ont connaissance, au fascisme d'aujourd'hui, auquel il ne manque que le pouvoir pour redevenir ce qu'il était, à savoir la consécration des privilèges de l'inégalité.
Il peut continuer ses études parce qu'il les avait commencées avant l'instauration des lois antisémites, mais aucun professeur, c'est assez odieux, à part un, hein, qui n'est même pas son professeur, tout le monde va le repousser parce qu'il est juif et refuser qu'il rédige sa thèse. Personne ne veut être directeur de thèse d'un juif.
Pour ce qui est de sa thèse, il finira par obtenir son doctorat avec une mention assez haute. Et trouver du travail n'a pas non plus été simple pour lui.
Non, bah évidemment, trouver du travail n'est pas simple parce que les portes se ferment, les risques sont de plus en plus importants puisque de toute façon la guerre est déjà déclarée et on avance de plus en plus vers une guerre totale, la généralisation de la guerre. Donc il trouve un travail à Milan pour une firme suisse, mais évidemment c'est quand même relativement précaire. Vis-à-vis de ses employeurs, mais aussi précaire vis-à-vis de la situation, jusque à la date fatidique du 8 septembre 43.
Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Il governo italiano riconosciuta la impossibilità.
Le gouvernement italien, reconnaissant l'impossibilité de continuer une lutte inégale, vu la puissance supérieure de l'adversaire, et afin d'éviter d'ultérieurs et encore plus graves malheurs à la nation, a demandé un armistice au général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées anglo-américaines.
Le père était mort en 1942 d'un cancer de l'estomac. La maman de Primo Levi et sa sœur se sont d'abord réfugiés près de la frontière française. Ils ont été hébergés par une grande résistante qui était avocate, Bianca Giudetti Serra, qui sera l'amie de Levi jusqu'au dernier jour, qui a caché donc la mère et la sœur de Levi. Et puis Levi, il est allé dans un chalet d'abord à Amaï avec deux jeunes femmes, la fameuse Vanda Maestro et Luciana Nissim, qui était un jeune médecin. Et donc j'ai bien connu Luciana Nissim, j'ai bien connu le troisième larron, enfin, de ce petit groupe, ceux qui sont arrivés là, qui était Guido Bacchi. Alors, le seul qui avait une formation militaire de ce groupe qui s'était constitué sur le tas, comme ça, c'était Guido Bacchi, qui avait fait son armée et qui avait vendu les bijoux de famille pour essayer d'acheter des armes. Mais ils étaient complètement incompétents. Ils n'ont pas, à proprement parler, fait de la résistance. Ils étaient tellement naïfs qu'ils ont été voir les paysans. Ils sont descendus dans la vallée voir les paysans en demandant qu'on leur tricote des pulls verts et des chaussettes. et qui demandaient comment se procurer des armes. Et on leur a dit, attention, vous êtes extrêmement imprudents. Les fascistes, les milices fascistes sont là, vous êtes repérés. Donc ils ont été très vite dénoncés et très vite arrêtés. Ils n'ont pas eu l'occasion même de... Le groupe de Lévy, ils étaient 11 au total. Le jour où ils ont été cernés par 400 fascistes de la milice, 8 ont réussi à s'échapper vers les montagnes, et puis eux, ils ont été pris. C'est-à-dire Vanda, Luciana, Primo et Guido Bacchi.
Et Primo Levi, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1943, se déclare juif en fuite plutôt que résistant.
Alors, disons que il pensait avoir certainement plus de chances de s'en sortir en tant que juif que résistant, parce qu'il n'avait pas encore vraiment la mesure du risque qu'il encourait. Indépendamment de quoi, les résistants étaient évidemment pourchassés par les fascistes. Mais d'un autre côté, il savait très bien que après le 8 septembre, donc avec la fondation de la République sociale italienne, les SS et les fascistes pourchassaient les juifs jusqu'à les assassiner, même avant de les déporter, comme c'est arrivé même à des proche de sa famille. Et donc il était pris entre les deux, il était pris entre deux risques. Et donc la question de la résistance reste un peu suspendue à quelques moments, alors que son identité juive, non seulement il l'assumait, mais en même temps il en avait vécu la persécution. Et finalement, quand il a été interrogé, il s'est déclaré juif plutôt que résistant, peut-être en pensant qu'il allait pouvoir mieux s'en sortir. Et entre guillemets, qu'est-ce qu'on sait? C'est tout ce qui peut passer dans la tête quand on est interrogé et quand on se retrouve dans cette situation. Il est interrogé à Aoste et il est interné à la prison d'Aoste. Et puis après, il est interné au camp de Fossoli, qui représente le Drancy, l'équivalent du Drancy en France, ce camp d'internement où sont internés tous les juifs de la région. Bon. Le ghetto de Rome a déjà été déporté. Ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. Ils ne savent pas exactement ce qui va se passer parce que la Pologne, c'est extrêmement loin. C'est à l'autre bout de l'Europe et ils n'ont absolument aucune idée. Sinon que, et il le dit quand même au début de Si c'est un homme, ils sentent bien qu'il y a quelque chose de très, très grave et de très dangereux qui les attend. Et après, voilà, ils sont déportés en février. Et donc il reste 3 mois à Fossoli, interné dans ce camp. Il passe 4 jours dans le train du convoi, dans des conditions absolument déplorables. Donc là déjà, comme pour tous les juifs qui étaient déportés, les conditions déplorables, entassés dans des wagons sans aucune condition d'hygiène, leur font présager qu'effectivement, quand ils vont arriver, ils vont vivre quelque chose dont ils n'auraient pas eu l'idée.
On nous fit monter dans des autocars qui nous conduisirent à la gare de Carpi. C'est là que nous attendaient le train et l'escorte qui devaient nous accompagner durant le voyage. C'est là que nous reçûmes les premiers coups. Et la chose fut si inattendue, si insensée, que nous n'éprouvâmes nulle douleur, ni dans le corps, ni dans l'âme, mais seulement une profonde stupeur. Comment pouvait-on frapper un homme sans colère? Il y avait 12 wagons pour 650 personnes. Dans le mien, nous n'étions que 45. Mais parce que le wagon était petit. Pas de doute, ce que nous avions sous les yeux, ce que nous sentions sous nos pieds, c'était un de ces fameux convois allemands, de ceux qui ne reviennent pas, et dont nous avions si souvent entendu parler en tremblant et vaguement incrédule. C'était bien cela, très exactement. Des wagons de marchandises, fermés de l'extérieur, et dedans, entassés sans pitié comme un chargement en gros, hommes, femmes et enfants, en route pour le néant, la chute, le fond. Mais cette fois, c'est nous qui sommes dedans. Les portes s'étaient aussitôt refermées sur nous, mais le train ne s'ébranla que le soir. Nous avions appris notre destination avec soulagement, Auschwitz, un nom alors dénué de signification pour nous, mais qui devait bien exister quelque part sur la Terre.
La survie ou la mort, c'était une affaire de hasard, de seconde, de concours de circonstances, et... Vous aviez des gens très grands, très robustes, qui arrivaient à Auschwitz et qui, au bout de 15 jours, avaient perdu 20 kilos et étaient envoyés à la chambre à gaz. Et c'était parfaitement arbitraire de toute façon. à la fois c'était très organisé et à la fois ça dépendait aussi du hasard. Donc certains jours, ils ouvraient les portes à gauche et ceux qui descendaient à gauche, parmi les jeunes, c'est-à-dire moins de 30 ans, hommes et femmes, allaient survivre. Ils ouvraient les portes aussi à droite, ceux qui descendaient à droite allaient directement à la chambre à gardien. Donc déjà ça. Après si, on avait, entre guillemets, la chance de rentrer dans le camp. Ça dépendait des commandos dans lesquels on allait être affecté. Ça dépendait de ce qu'avait demandé l'ange de la mort sur le quai, sur la Judenramp. Par exemple, s'ils avaient besoin, si on disait « je suis professeur d'université », on était sûr d'aller à la chambre à gaz. Ils n'avaient pas besoin de professeur d'université. Ils n'en avaient rien à foutre.
Mais pas les chimistes.
Eh bien, en 43, on avait besoin de chimistes. Avant, non, on l'aurait tué. À ce moment-là, il commence à avoir besoin de chimistes. Et c'est comme ça qu'ils regardent dans les listes des gens qu'ils ont laissé rentrer dans le camp s'il y a parmi eux des chimistes.
Häftling. J'ai appris que je suis un Häftling. Mon nom est 174-517. Nous avons été baptisés et aussi longtemps que nous vivrons, nous porterons cette marque tatouée sur le bras gauche. Je pousse des wagons, je manie la pelle, je fonds sous la pluie et je tremble dans le vent. Déjà, mon corps n'est plus mon corps. J'ai le ventre enflé, les membres desséchés, le visage bouffi le matin et creusé le soir. Chez certains, la peau est devenue jaune, chez d'autres grise. Quand nous restons 3 ou 4 jours sans nous voir, nous avons du mal à nous reconnaître. Nous avions décidé de nous retrouver entre Italiens, tous les dimanches soirs, dans un coin du lager. Mais nous y avons bientôt renoncé parce que c'était trop triste de se compter et de se retrouver à chaque fois moins nombreux, plus hideux et plus sordides.
Il se met donc à observer ce monde qu'il habite, il repère les endroits interdits, les lieux de refuge. Donc il note le camp dans tous ses détails.
Oui, il le note mentalement. Hein, il le note mentalement. Et noter le camp dans tous ses détails, d'ailleurs, on retrouve ça chez d'autres déportés aussi, chez certains déportés artistes. Noter le camp dans tous ses détails, c'est aussi pouvoir établir une certaine distance qui permet soi-même de ne pas être saisi par la brutalité, voire la violence extrême de certaines scènes, ou la brutalité du quotidien. Hein, qu'on est obligé de vivre, mais qu'on vit tout autrement si on peut d'une certaine manière, la décrypter autant que possible.
L'aspect antitotalitaire, antifasciste de la science va être très important pour lui.
Sophie Nézeri-Dufour, maître de conférence en littérature italienne contemporaine.
Et dans le camp aussi, il va considérer les phénomènes subis dans une démarche de scientifique en analysant avec objectivité les réactions humaines. On l'a vu hein, comme un zoologiste parfois, comme un naturaliste. Et puis aussi, tout simplement, pendant 3 mois, il va travailler dans un laboratoire en tant que scientifique dans le camp. Donc même si les conditions ne sont pas faciles, il va être dans de meilleures conditions et il va cesser d'être considéré comme une bête puisqu'il accomplira un travail qui n'est pas un travail d'esclave hein, comme dans le camp. Donc on voit à quel point la science a été importante dans son expérience. À la fois philosophiquement et puis concrètement.
Au camp, le plus simple est de succomber. Il suffit d'exécuter tous les ordres qu'on reçoit, de ne manger que sa ration et de respecter la discipline au travail. L'expérience prouve qu'à ce rythme, on résiste rarement plus de 3 mois. Tous les musulmans qui finissent à la chambre à gaz ont la même histoire, ou plutôt ils n'ont pas d'histoire du tout. Ils ont suivi la pente jusqu'au bout, naturellement, comme le ruisseau va à la mer. Dès leur arrivée au camp, par incapacité foncière, par malchance ou à la suite d'un incident banal, ils ont été terrassés avant même d'avoir pu s'adapter. Leur vie est courte, mais leur nombre infini. Ce sont eux, les Muselmänner, les damnés, le nerf du camp. Eux, la masse anonyme, continuellement renouvelée et toujours identique, des non-hommes en qui l'étincelle divine s'est éteinte et qui marchent et peinent en silence, trop vite déjà pour souffrir vraiment. On hésite à les appeler des vivants. On hésite à appeler mort une mort qu'ils ne craignent pas parce qu'ils sont trop épuisés pour la comprendre. Ils peuplent ma mémoire de leur présence sans visage. Et si je pouvais résumer tout le mal de notre temps en une seule image, je choisirais cette vision qui m'est familière, un homme décharné, le front courbé et les épaules voûtées, dont le visage et les yeux ne reflètent nulle trace de pensée.
Alors, ceux qui sont dénommés à Auschwitz musulmans, comme on dit en France, musulmans, ouais. En fait, on ne sait pas trop d'où vient exactement ce mot. Il y a plusieurs origines. Toujours est-il que ce sont les déportés qui sont dans un état de faiblesse extrême, atteints aussi bien physiquement, psychologiquement, et d'une certaine manière entre la vie et la mort. Alors, les comportements des déportés vis-à-vis de ceux-ci sont extrêmement ambigus, puisque à la fois ils pourraient avoir envie de les soutenir, mais en même temps ils voient ce que ils sont amenés par le système concentrationnaire à devenir. Donc évidemment, c'est une vision effrayante de son propre devenir. Pour Primo Levi, ces musulmans, c'est les témoins les plus, on peut dire les témoins extrêmes de ce que le système concentrationnaire nazi produit, à savoir des esclaves qui vont devenir des cadavres et qui vont être sélectionnés et être gazés, comme régulièrement les SS le faisaient.
Alors a priori, on aurait pu dire ce mec, si mec, si petit, va pas survivre. Au contraire, il avait fait de la montagne, donc il était bien musclé et résistant physiquement. Il menait une vie extrêmement austère, ça faisait partie de la moralité élitiste de l'alpiniste de très peu manger. Donc il arrive à Auschwitz, il pèse 52 kilos. Il y a des gens qui mouraient à 52 kilos, mais lui, il arrive, il pèse 52 kilos. Donc il a une sorte de résistance physique qui vient de sa culture d'alpiniste notamment, et de sa façon de vivre aussi. Quand il y a eu les épidémies de typhus, il a passé deux sélections, et il a survécu aux sélections, ce qui est quand même assez miraculeux. Et donc après, il va y avoir les derniers mois quand il va travailler dans le laboratoire. Alors maintenant, il a encore survécu une troisième fois. C'est au moment où les nazis ont évacué le camp. Ce qui l'a sauvé, vous voyez, c'est d'être très gravement malade. Il avait la scarlatine, il avait 42 fièvres. Donc, quand ils ont fait l'appel et qu'ils ont fait sortir 20 000 prisonniers par moins 20 degrés à moitié nus dans la neige, lui, il s'est pas levé. Il y a 8 000 prisonniers qui sont restés par terre à Auschwitz. 90%, même plus que ça, sont morts, parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Lévi a survécu à ça. Et là, oui, c'est son intelligence supérieure et sa qualification de chimiste qui l'ont sauvé. Parce qu'il était dans dans un bloc avec que des gens grièvement malades, dont d'ailleurs un est mort. Et il va organiser la survie, et de façon extraordinaire, en homme de science. Et il va savoir comment gérer, avec le peu qu'il y a, comment purifier de la neige, la faire fondre et la purifier. Et donc quand les Russes vont arriver, Lévi est très très malade, puisqu'il va être chargé sur une carriole. Un seul est mort dans son bloc, un seul.
Voici ma sœur, quelques amis que je ne distingue pas très bien et beaucoup d'autres personnes. Ils sont tous là à écouter le récit que je leur fais, le sifflement sur trois notes, le lit dur, mon voisin que j'aimerais bien pousser mais que j'ai peur de réveiller parce qu'il est plus fort que moi. J'évoque en détail notre faim, le contrôle des poux, le capot qui m'a frappé sur le nez et m'a ensuite envoyé me laver parce que je saignais. C'est une jouissance intense, physique, inexprimable que d'être chez moi, entouré de personnes amies, et d'avoir tant de choses à raconter. Mais c'est peine perdue. Je m'aperçois que mes auditeurs ne me suivent pas. Ils sont même complètement indifférents. Ils parlent confusément d'autres choses entre eux, comme si je n'étais pas là. Ma sœur me regarde, se lève et s'en va sans un mot. Mon rêve est là, devant moi, encore chaud. Et moi, bien qu'éveillé, je suis encore tout plein de son angoisse. Et alors je me rappelle que ce rêve n'est pas un rêve quelconque, mais que depuis mon arrivée, je l'ai déjà fait je ne sais combien de fois, avec seulement quelques variantes dans le cadre et les détails. Pourquoi la douleur de chaque jour se traduit-elle dans nos rêves de manière aussi constante, par la scène toujours répétée du récit fait et jamais écouté?
Au lendemain de la guerre, bon, les survivants des camps ont rencontré beaucoup de difficultés à transmettre leur expérience. En fait, la société de l'après-guerre voulait oublier et refusa longtemps de les écouter. Et Primo Levi avait compris que peu d'individus seraient prêts à concevoir, à accepter une réalité aussi déstabilisante qu'Auschwitz, qui obligeait à reconsidérer, à remettre en question beaucoup de fondements de la civilisation occidentale, la société occidentale. Et c'est vrai qu'en Italie, on préféra, et en Europe, oublier en fait, et ne prêter qu'une attention relative au message des survivants. Et en fait, l'expérience des déportés était si violente, si terrible, qu'elle en paraissait presque agressive, offensante pour les autres. En plus, le déporté, en revenant d'Auschwitz, ne bénéficia d'aucune position vraiment définie, parce que son expérience ne s'inscrivait pas dans l'histoire collective italienne et européenne. Elle ne renvoyait pas à une réalité traditionnelle. Donc, on demanda, dans l'immédiate après-guerre, aux déportés d'occulter une partie de leur histoire, de leur identité. Et ce n'est que vers la fin des années 50 que les choses ont commencé à changer, qu'on a commencé à publier des récits de survivants.
Mon existence a été marquée par deux faits fondamentaux. Premièrement, ma détention à Auschwitz. Deuxièmement, ce que j'ai écrit à propos de ma détention à Auschwitz.
Et c'est dans le laboratoire de la Buna d'Auschwitz, où il a été placé en tant que chimiste, que Primo Levi commence à écrire « Si c'est un homme ».
Alors, il dit qu'il avait pris des notes, qu'il n'a pas gardées. Mais ces notes, elles sont aussi, on peut dire, dans le mental, hein, dans son esprit, hein, puisque de même que l'observation, et c'est aussi toute sa qualité d'intellectuel et de scientifique en même temps, hein, ben, il enregistre énormément. Donc c'est déjà un travail de mémoire, si vous voulez, hein, mais un travail de mémoire individuelle. Il enregistre énormément. Il semblerait effectivement, il le dit lui-même, qu'il a pris des notes, mais ces notes, il pouvait pas les garder, parce qu'il aurait suffi qu'on le surprenne avec ces notes pour qu'il soit exécuté immédiatement.
Et vous pensez que l'écriture de « Si c'est un homme » est partie de là, de la peur de l'oubli, de ne pas être compris ni écouté ? C'est ça. Et puis en plus, il y a une éthique de la langue, du choix de la langue, du langage, du choix des mots qui est très importante. Il y a un besoin de retranscrire avec le plus de fidélité possible une expérience qui à la base est indicible, innommable. Et en plus, chez lui, il y a cette nécessité d'écrire pour et au nom des compagnons qui sont morts. Donc, c'est éminemment éthique, en fait. C'est le choix, donc, on le sait, hein, c'est un langage sobre, apparemment, je dis bien simple et dépouillé. Chaque mot a son importance, sa fonction, et renvoie à une réalité précise. Bon, ce qui est en partie une chimère, hein, Primo Levi en était bien conscient. Il expliquait qu'aucune langue au monde n'était assez riche pour pouvoir exprimer, qu'il faudrait inventer des milliers de mots pour pouvoir à peu près expliquer ce qui s'était passé. Donc il sut trouver les mots justes, une démarche d'ailleurs scientifique, mais il était conscient voilà, des problèmes de l'élaboration stylistique d'une matière aussi délicate que la Shoah.
C'est un petit peu la charte qu'il se donne à lui-même, hein, qu'il se contraint de suivre. L'écriture doit être claire, doit pouvoir s'exprimer sans fioriture, dit-il, sans en passer par des effets de style qui iraient d'une certaine manière séduire le lecteur autrement que... ou qui iraient séduire le lecteur alors que lui, il cherche plutôt à lui faire entendre raison à travers sa transmission d'expérience. Et donc aussi lui faire entendre un message qui n'est pas simplement, on peut dire, de l'ordre de l'émotion qui pourrait masquer ou qui pourrait empêcher le lecteur de juger. Voilà. C'est plutôt ça. Voilà. Il évite l'émotion pour accroître chez le lecteur sa capacité de jugement. Et de jugement au-delà d'un jugement moral, mais de jugement d'existence.
Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a eu deux versions de « Si c'est un homme ». Et il a cette première version en 1947, où les descriptions sont beaucoup plus dures et plus violentes. Nous, la version que l'on lit, c'est la deuxième version, où Primo Levi a adopté une stratégie littéraire où il n'insiste que sur certains phénomènes et il ne parle pas de tout. Donc là, j'avais découvert à la Bibliothèque nationale de Rome la première version et il est intéressant de voir qu'il a voulu adapter son récit pour que le lecteur ne se sente pas trop agressé.
C'est Natalia Ginzburg, c'est-à-dire la veuve de Léon Gisbourg, qui est mort sous la torture dans la prison de Regina Coeli à Rome, qui va faire refuser le manuscrit. Qu'est-ce qu'elle dit ? Il n'y a aucun intérêt à publier ce livre.
Aucun intérêt.
Oui, bah, pas de raison. Et c'est donc un grand résistant antifasciste, Anthony Coeli, qui va, avec sa toute petite maison d'édition Siva, il va publier ce livre qui va être distribué de façon confidentielle dans sa première édition. Et on va être obligé d'attendre 11 ans entre cette première édition dont le stock va être noyé dans les inondations de l'Arno à Florence. 11 ans avant qu'on se réveille et qu'on publie à nouveau le texte de Lévy, qui devient donc directeur d'usine. Il va rien écrire quasiment pendant 11 ans.
Je suis Daniel Amsalem. J'ai eu la chance de rencontrer Primo Lévy à Turin à deux reprises, en 1980 et 1986. C'est lui qui a ouvert la porte. J'étais assez surprise parce qu'il était très, très détendu. C'était un homme menu. C'est son regard qui m'a frappée. De beaux yeux allongés avec un regard très pénétrant. Mais il était très affable, très à l'aise. Et donc on a parlé tout d'abord de la qualité de sa prose et de son style très particulier. Et c'est là qu'il m'avait dit que, en fait, ce n'était pas... Ça faisait partie de son tempérament. Parce que j'avais dit, oh, je vous admire et je vous envie un peu d'être comme ça. Et son tempérament était de ne pas se laisser aller à des émotions ou des réactions pulsionnelles et de réfléchir toujours. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs quand il écrivait ses livres, sauf ses poésies, ses poèmes.
Exactement. On le connaît beaucoup comme... l'auteur de la Shoah qui a exprimé avec clarté, avec sobriété la Shoah, et c'est une bonne chose et c'est devenu une référence européenne, même mondiale. Mais il est intéressant aussi de connaître ce Primo Lévy qui crie son désespoir. On a là un Primo Lévy en fait qui hurle, qui crie sa rancœur que l'on n'a jamais en fait dans son œuvre en prose. Donc là, c'est assez intéressant de voir qu'on a à ce moment-là des images récurrentes qui reviennent, des images figées où on n'a pas de progression du temps et où l'horreur d'Auschwitz ne cesse de revenir.
Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons. Vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis. Considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu ses cheveux et son nom, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. Méditez que cela fut. Je vous commande ces paroles, gravez-les dans votre cœur, dans la maison ou en voyage, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants détournent leur visage de vous.
Donc il a écrit à peu près 80 poèmes, Primo Lévy, et on a à peu près une soixantaine d'animaux qui apparaissent dans ses poèmes, qui appartiennent à l'ensemble du règne animal. On a beaucoup d'invertébrés, de reptiles, hein, c'est pas pour rien. Des serpents, des vipères, beaucoup d'insectes aussi, des fourmis, des mouches, et les oiseaux, le corbeau, le vautour. Donc là, justement, ça montre bien cette variété de la démarche de Primo Lévy, ces différents registres. Ces animaux, on va les retrouver aussi dans la prose, mais dans une autre démarche, puisque c'est pour expliquer... En utilisant une démarche de naturaliste, de zoologiste, ce que l'homme a été capable de faire. Donc il étudie l'homme comme le ferait un scientifique qui observe le comportement des espèces animales dans leur milieu naturel. Et donc il établit un parallèle entre l'homme et l'animal. En recherchant dans les comportements, les instincts de l'animal, une base d'études et d'observations pour expliquer les réactions humaines. Par exemple, l'antisémitisme... Il l'explique non seulement sous l'angle historique, éthique et philosophique, mais aussi dans une perspective zoologique, hein, ce serait le refus de l'animal qui n'appartient pas à un groupe d'une même espèce.
Le chant du corbeau. Je suis venu de loin, de très loin, pour t'apporter une triste nouvelle. J'ai franchi la montagne, j'ai transpercé le nuage bas, j'ai reflété mon ventre dans l'étang, j'ai volé sans trêve ni repos, des milles et des milles sans repos, pour trouver ta fenêtre, pour trouver ton oreille, pour t'apporter la mauvaise nouvelle qui t'ôtera le plaisir du sommeil, qui gâtera et ton pain et ton vin, qui siégera chaque soir dans ton cœur. Il allait ainsi chantant et dansant, sinistre, par-delà la vitre, sur la neige. Après quoi, il se tut, lorgna d'un œil malin, traça du bec sur le sol une croix, puis, grande, déploya ses ailes noires.
Quel était le rapport de Primo Levi à sa judéité ?
C'est surtout au moment de son internement dans le camp de Force Soli, où il a été en contact avec d'autres juifs qui venaient d'Europe orientale, donc beaucoup plus pratiquants, et puis surtout à Auschwitz aussi, qu'il a découvert le judaïsme d'Europe de l'Est, le yiddish. Il s'est senti comme un œuf sans coquille, disait-il, parce que les juifs italiens étaient assez assimilés, et ils ne parlaient pas le yiddish, donc il y a eu presque un contact traumatisant d'abord. Et puis le retour aussi après Auschwitz, c'est donc ce long périple de 9 mois à travers l'Europe orientale. Et là, il a été en contact avec des populations, ce qui restait des populations juives d'Europe orientale. Et ça a éveillé son intérêt. Il s'est intéressé aux écrivains yiddish, donc les frères Singer, aux écrivains juifs américains. Et il allait même jusqu'à étudier la grammaire yiddish pendant 8 mois. Pour écrire son seul, unique roman, dont le titre en français est « Maintenant ou jamais ». Et donc pour lui, le judaïsme était en fait essentiellement culturel. Parce que, on m'avait dit, il ne niait pas Dieu, mais il pouvait concevoir ce que Freud appelait un sentiment océanique de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui tire les ficelles du monde, mais qui ne se soucie pas des hommes.
Il se disait, lui, laïque, il se disait non-croyant, mais il était aussi, il aimait peut-être le questionnement aussi, qui est très lié à la pensée juive. C'est ça, en fait, il rapprochait la tradition talmudique où l'on discute, où on coupe les cheveux en quatre, à la démarche scientifique, où il faut partir de la contradiction, de l'erreur, du questionnement pour découvrir en fait la vérité. Et ça s'opposait totalement au fascisme qui impose, qui dogmatise les choses. À travers le Talmud, il avait trouvé une vision des choses qui l'intéressait beaucoup. Alors donc, il se disait athée, en effet, par éthique. Hein, Auschwitz existait, donc Dieu ne pouvait pas exister. Mais malgré tout, ça ne le satisfaisait pas. On retrouve par exemple tout au long de son œuvre la figure de Job, qui faisait partie de ses livres préférés, hein, le livre de Job. Et il expliquait que Job était pour lui une figure emblématique, puisque comme le déporté, il avait souffert injustement, il avait tenté de surmonter sa condition de victime du mal, il avait ensuite élaboré des questions qui remettaient en cause Dieu, la création, mais qui intégrait Dieu et la création dans sa réflexion. Donc, en fait, ce n'était qu'un athéisme partiel. Pour lui, pourquoi le mal, c'était le problème des problèmes. Et il disait, ce pourquoi est gigantesque et vieux comme le genre humain. C'est le pourquoi du mal du monde, c'est celui qu'inutilement Job adresse à Dieu. La trêve, comme le système périodique ou bien les rescapés, les naufragés, expriment tous sous une forme différente aussi la difficulté du retour.
Alors, il y a une difficulté du retour parce que les déportés, Et à ce niveau-là, Primo Levi parle aussi pour eux. Hein. Il faut bien comprendre que, par exemple, quand j'avais rencontré Jean-Samuel Piccolo, qui est donc nommé Piccolo dans Si c'est un homme, il disait, mais de toute façon, il écrivait tellement bien qu'il parlait pour nous. Et donc, on n'avait pas besoin de s'exprimer. Bon, il n'a pas porté la notion de devoir de mémoire en tant qu'expression, hein, qui ne vient pas de lui. Mais il s'est, à partir des années 50, donc pas tout de suite, pas quand il a commencé à écrire Si c'est un homme, il s'est senti investi de la nécessité de porter témoignage. On peut dire à partir des années de 1954-55, au moment des 10 ans de la célébration de la libération d'Italie, puis après évidemment de la fin du nazisme, parce qu'il avait, il le dit dans un texte qu'il publie en 1955, qui s'appelle Déporté anniversaire, il dit très clairement, on va tout oublier. On va tout oublier et effectivement, dit-il, hein, on s'attache plus à ceux qui ont de la gloire que à nous déportés qui n'avons pas été héroïques et pour cause, on leur avait enlevé tout moyen de l'être et qui avons été déportés parce qu'on était juifs. Et il tire déjà la sonnette d'alarme et il se sent investi cette tâche ou cette mission et de là effectivement il acquiert cette position de témoin qu'il aura dans l'espace public, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des écoles, dans lesquelles il visitera, à la fin des années 70, il dit qu'il a visité à peu près 140 écoles. Donc ça représente là, c'est un véritable travail, on peut dire, hein, c'est quelque chose qui doit être tenu sur la durée, hein, c'est plus qu'un marathon, enfin, c'est quelque chose qui, avec une constance qui est aussi, et la cause d'une certaine fatigue, hein, évidemment, de sa part. Mais voilà, donc il est investi par cette qualité de témoin au milieu des années 50. Ça ne veut pas dire qu'avant, évidemment, quand il écrit Si c'est un homme, il ne témoigne pas, mais il témoigne par écrit d'abord. Hein, il n'est pas investi cette position sociale qu'il a acquise à partir des années 50.
Être témoin égarant d'une transmission semble avoir été, pour Primo Levi, aussi salvateur qu'éprouvant.
Oui, surtout vers la fin de sa vie, il trouvait... vous savez que pendant toute sa vie, il a été dans les écoles, il allait voir rencontrer les jeunes, les écoles primaires, et puis les collèges, les lycées. Et vers la fin de sa vie, il sentait le poids de cette mission qu'il avait acceptée et qu'on lui avait confiée. Et il percevait aussi un glissement dans l'approche des jeunes, on était au début des années 80, par rapport à cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il m'avait dit, vous savez, les jeunes maintenant, pour eux, c'est comme parler du Risorgimento, des guerres puniques, et c'est très éloigné dans le temps. Ce n'est plus l'expérience de leurs parents, ce sont les grands-parents. Et donc, pour eux, c'est difficile de comprendre que c'est une histoire qui n'est pas si éloignée que ça.
En plus, il ne faut pas oublier que dans les années 80, à cause des thèses notamment de Faurisson, Primo Levi s'est senti agressé par ce mouvement où on remettait en cause le témoignage des déportés. Il a très, très mal vécu. Il y a eu un échange d'ailleurs d'articles entre Primo Levi et Faurisson. Et donc, il était en train de... Primo Levi vivait alors une double offense, puisque, bon, il avait vécu Auschwitz, et en plus, sa parole était remise en cause. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a écrit « Les naufragés, les rescapés », qui est en fait une étude... Il revient à une étude peut-être plus scientifique, plus historique des camps. Donc, ça a été publié en 86, un an avant sa mort. Et là, on retrouve cette peur de ne pas être cru.
Le nazisme en Allemagne était la métastase d'une tumeur qui a pris forme en Italie. Une tumeur qui a mené à la mort, ou presque, l'Allemagne et l'Europe. Un désastre total. Je sais, sans aucun doute, je sais que des camps peuvent être recréés partout. Pas nécessairement sous une forme identique à l'ancienne, mais une nouvelle. Comme celle privilégiée par les néo-fascistes en Italie, revendiquant que nous ne sommes pas tous égaux, que nous n'avons pas tous les mêmes droits, que certains ont des droits et d'autres non. Là où cette idée prend racine, à la fin, il y a un camp. Ça, je le sais avec certitude.
Si
vous voulez, sa vraie vision, à mon avis, avec le recul, ça va être en 86, Les naufragés et les rescapés. Ça, c'est le plus grand livre qui a été écrit sur l'univers concentrationnaire. Je ne parle pas du témoignage. C'est un ouvrage scientifique sur la société concentrationnaire, aussi bien du côté des nazis, des bourreaux, des assassins, que du côté des victimes. Et c'est sans concession, enfin, je ne veux pas dire sans concession, c'est scientifique, donc c'est pas froid, mais c'est détaché, c'est-à-dire qu'il observe, comme à travers un microscope, le comportement des hommes dans l'enfer. Mais en même temps, puisqu'on parle de la mémoire, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil du temps, plus le temps passe et plus il se défie de la mémoire. Il écrit des textes dans lesquels il dit que la mémoire, c'est un outil extraordinaire, mais qu'en même temps, il faut s'en méfier, parce que la mémoire dans le cerveau est constamment réélaborée, qu'elle est victime, elle n'est pas victime, mais elle subit des ajouts. Si vous voulez, la mémoire, ce n'est pas une chose figée pour toujours. Et Lévy, c'est extraordinaire, dans Les naufragés et les rescapés, il analyse aussi bien comment les bourreaux vont construire une mémoire de déni et arriver à reconstruire leur propre histoire pour échapper à leur culpabilité, allant jusqu'à être complètement amnésique. Et du côté des survivants, comment cette mémoire va évoluer.
On parle beaucoup de l'état dépressif de Primo Levi à la fin de sa vie. Vous avez perçu cette tristesse?
Alors, je l'avais perçu dans la deuxième rencontre que j'ai eue avec lui en novembre 1986, donc quelques mois avant sa mort. Et là, je l'avais trouvé vieilli, il m'a serré les mains et j'ai perçu comme une espèce de détresse dans son attitude. Donc il était effectivement vers la fin de sa vie, mais même pendant, au cours de sa vie même précédant les dernières années, il avait eu des moments de périodes de dépression. Lui, il disait qu'ils n'étaient pas nécessairement liés à son expérience des camps. Il était dépressif, il prenait des antidépresseurs vers la fin de sa vie. Il avait aussi peur d'avoir la maladie d'Alzheimer parce qu'il avait l'impression de perdre la mémoire. Et pour lui, c'était la chose la plus effrayante qui pouvait lui arriver.
Bon, alors, la dépression à la fin de sa vie, elle est liée à deux éléments. D'une part, le fait que sa mère est toujours vivante, qu'elle a la maladie d'Alzheimer, qu'elle est à la maison, qu'il n'envisage pas de la mettre dans une maison de retraite juive qui est à 50 mètres de sa maison. J'y suis allée, j'ai même rencontré une amie de Lévy qui était là-bas, une sénatrice qui vivait là-bas. C'était à moins de 3 minutes à pied. Non, il n'imagine même pas de mettre sa mère, qui est tyrannique, qui est folle, bon, dans cette maison de retraite. Sa belle-mère est aveugle depuis 15 ans et elle habite dans la rue à côté. Donc Lévy et sa femme sont prisonniers de deux femmes séniles très âgés, il y en a une qui a 95 ans, l'autre qui a 90 ans, et ils n'ont, au moment où la gloire littéraire touche enfin Lévy par l'Amérique, il n'a plus de liberté totale, il peut même plus voyager, parce qu'il s'impose cette chose, et un jour il dit cette chose terrible à Agnès et Enchisa, qui travaillaient chez Nodi, il lui dit, très peu de temps avant de se suicider, de ma mère ou de moi, il y en a un de nous deux doit mourir. Ça n'est plus supportable. Alors, par ailleurs, il est opéré de la prostate, ça ne se passe pas très bien, et il dit, notamment à Alberto Salmoni, on survit à Auschwitz et on se pisse dessus. Il dit ça comme ça. On survit à Auschwitz et on se pisse dessus. Il voit en lui-même la dégradation de son corps, il voit ce que ça va devenir, il voit sa mère.
Sa mère était extrêmement malade et la maladie de sa mère a fait que ça faisait revenir des images de la déportation. Et le 11 avril 1987, il a basculé et il est tombé du haut de cette cage d'escalier qui est aussi extrêmement large de l'immeuble où il habitait. tout laisse penser que c'est un suicide. Après, le suicide laisse ouvert quantité d'interprétations. Ça vient, d'une certaine manière, contredire des textes où il, que ce soit vis-à-vis de Jean Améry ou que ce soit vis-à-vis de Paul Celan, il critiquait fermement cette position, cette décision du suicide. Ça entre en contradiction. Mais après, est-ce que ça vient pas nous interpeller sur l'image qu'on aurait envie d'avoir du témoin, d'un témoin qui ne se contredirait pas? Est-ce que finalement, il faut pas aussi voir que cette image-là, c'est une facette d'un homme qui est extrêmement complexe, qui occupait différentes positions dans la société, qui jouait différents rôles, chimiste, témoin public, écrivain, témoin-écrivain, et qui était aussi rongé par de la dépression, mais aussi rongé par une difficulté à être dans une société dans laquelle il se sentait de plus en plus étranger.
Daniela Amselem, vous préférez soutenir la possibilité d'un accident plutôt que d'un suicide?
C'était un samedi matin, la concierge était montée lui apporter le courrier vers 9h30. Il avait remercié en souriant et elle était redescendue dans la loge et c'est là qu'elle a entendu le bruit de sa chute. Lui, il était rentré dans l'appartement, il avait dit à l'infirmière qui s'occupait de sa mère de répondre au téléphone parce qu'il devait s'assanter un petit moment. Les antidépresseurs peuvent provoquer des vertiges ou des étourdissements. Est-ce qu'il a voulu se pencher au-dessus de la rambarde, qui était assez basse par rapport. J'ai vu une photo qui a été publiée après sa mort, qui lui arrivait vraiment assez bas au niveau du bassin. Donc, est-ce qu'il a voulu se pencher pour appeler la concierge et il est tombé de façon accidentelle. Il n'a pas laissé de lettres à ses proches, ce qui met en doute la thèse du suicide. Avance le fait qu'il aurait pu, en tant que chimiste, trouver une façon beaucoup moins spectaculaire et tragique de mourir. Ceci dit, donc je préfère moi parler de mort tragique en ne tranchant pas, parce que je pense que Primo Levi lui-même, s'il avait dû se prononcer sur un cas
comme
le sien, il aurait préféré garder une certaine prudence.
C'est pas seulement un témoin, c'est un grand écrivain. C'est vraiment un des écrivains qui m'a le plus impressionné par son intelligence, sa clarté. C'est vraiment l'homme des Lumières. C'est le projet illuministe français, les Lumières, la raison, la clarté, la précision. C'est vraiment, il incarne tout ça. C'est vraiment, on le lit et à chaque phrase, on se dit c'est miraculeux, tellement c'est logique, tellement c'est clair. Tellement c'est peu bavard, tellement c'est évident.
Primo Levi, l'homme en soi. Avec Philippe Ménard, Myriam Anisimov, Daniela Amselem et Sophie Nézeri Dufour. Lecture, Nicolas Racca. Prise de son, Fabien Gosset et Valérie Lavalard. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Julie Béressy. Un documentaire de Lénora Krief.